et nous allons avoir donc le témoignage de deux écoles qui vont nous permettre de voir comment justement le patrimoine est aussi un levier pour la transmission du savoir-faire et des savoirs. Donc on va démarrer avec l'école du Breuil, avec lequel on a eu un premier rapprochement d'ailleurs avec la Bibliothèque nationale de France il y a quelques temps, et qui va présenter déjà la philosophie de la formation à l'école du Breuil, un aspect historique, et aussi justement le travail qui est fait autour du patrimoine de cette école. Je vous laisse la parole.
Merci. Donc bonjour.
Pardon, j'ai oublié de vous présenter.
Ah,
bon, quand même.
Oh, c'est pas...
Bah oui. Nous avons le plaisir d'accueillir donc Laurence Oudry, qui est historienne d'art de formation, qui a fait l'IPAG, qui a œuvré dans pas mal de musées de la ville de Paris, notamment le musée Zadkine, et qui a eu une découverte heureuse du monde des bibliothèques et qui œuvre donc aujourd'hui au sein de celle de l'école du Breuil.
Voilà. Merci. Alors, donc, je vais moi vous aborder donc la question de la bibliothèque spécialisée et patrimoniale du Breuil, qui est située dans le bois de Vincennes. Elle a été créée en même temps que l'école du Breuil, dont nous fêtons cette année le 150e anniversaire. Donc, pour répondre à la diversité des publics, la bibliothèque doit assurer plusieurs missions que je vais développer en quatre points. En lien avec l'école du Breuil, sa première mission est évidemment la formation. Avec les collections spécialisées vient ensuite la documentation, la diffusion de fait inhérente à toute bibliothèque et enfin la conservation pour tout ce qui relève, du patrimoine. Alors, l'école du Breuil est avant tout dédiée à la formation d'élèves, d'étudiants, d'apprentis et plus largement d'apprenants. Son cœur de métier s'appuie sur l'étendue de son domaine, ressources nécessaires aux travaux pratiques. Bien plus qu'une école au sens scolaire du terme, c'est aussi un centre de formation, un jardin public, une bibliothèque spécialisée et patrimoniale ouverte à tous, un outil d'expérimentation dans le domaine du végétal, un conservateur et développeur de collections, une force de proposition pour l'innovation et l'expérimentation, enfin un lieu de rencontre. Donc là, vous avez le périmètre fonctionnel de l'école du Breuil aujourd'hui, avec d'une part le jardin qui, où se trouve l'essentiel de nos bâtiments, et d'autre part l'arboretum. Alors, créée en 1867 par un arrêté du préfet Haussmann, l'école d'horticulture et d'arboriculture avait pour mission de pourvoir le département de la Seine, et plus particulièrement Paris, en jardinier au moment de la création des promenades publiques d'Alphand. Depuis 1937, elle est située dans l'ancienne ferme expérimentale de la Faisanderie au sein du bois de Vincennes. Alors, pour la petite anecdote, la ferme expérimentale de la Faisanderie est le lieu où a été mis au point la margarine. On a encore des personnes qui viennent en nous demandant si c'est vrai. Donc oui, c'est vrai. Donc, en 2017, l'école du Breuil se prépare à devenir un établissement public administratif de la ville de Paris. Le vote en Conseil de Paris est prévu pour le 1er juillet 2018 et avec une création effective en janvier 2019. Aujourd'hui, cette école d'art et technique du paysage est un établissement à vocation multiple. D'une part, c'est un jardin ouvert au public, doté d'une équipe de jardiniers qui œuvre sur le jardin, mais également dans les cadres des enseignements. Et un établissement qui dispense une formation scolaire et en apprentissage et des formations continues. Vous avez ici deux tableaux qui représentent les formations initiales. Les formations scolaires et par apprentissage sont suivies par 300 apprenants chaque année, de la seconde à la terminale, et ils se poursuivent avec des brevets de techniciens supérieurs, les BTS que nous connaissons, des brevets professionnels, des certificats de spécialisation et une licence professionnelle. Les formations continues concernent, elles, plus de 3500 stagiaires. Cela va des formations diplômantes qui ont lieu le soir et le samedi toute la journée, en passant par les préparations au concours d'entrée dans les écoles nationales supérieures du paysage, les conférences dans le cadre des rendez-vous de l'école du Breuil et surtout avec les formations destinées aux professionnels des espaces verts parisiens, conformément à ce pourquoi l'école a été créée. Elles sont également ouvertes, ces formations, à l'ensemble des professionnels du secteur. Enfin, les cours publics adultes en session de 3 à 90 heures qui ont lieu le samedi pour les amateurs. L'école Dubreuil s'appuie sur un espace pédagogique exceptionnel de 23 hectares, composé de jardins thématiques. Nous avons une roseraie, une rocaille, un potager, un verger, un fructicétum, des collections de plantes saisonnières, mais également un arboretum de Paris qui fait partie du Jardin botanique de Paris. Il représente 650 essences de feuillus et de conifères dans une ambiance naturelle. Vous avez ici donc quelques vues, mais rien ne vaut la visite. La bibliothèque recouvre tous les domaines liés au végétal, la botanique, l'horticulture, l'art et les techniques des jardins et du paysage, l'univers végétal en milieu urbain, les métiers et formations horticoles. Les collections sont remarquables tant par leur richesse iconographique que par leur intérêt historique et technique. Environ 5600 ouvrages sont répartis dans trois réserves, une contemporaine, une pour les périodiques et une patrimoniale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Plus de 8000 ouvrages contemporains sont en accès libre, 436 DVD documentaires, 29 ressources multimédia, 54 collections de périodiques français et étrangers, dont 33 abonnements en cours. Les usagers, ils sont essentiellement élèves et étudiants, des formations continues et initiales à 46%. Viennent ensuite les enseignants, les intervenants, les agents de tout grade et de tout profil de la direction des espaces verts, les professionnels du secteur, ils sont, vous en doutez, les jardiniers, les urbanistes, les paysagistes, donc 30% de notre public. Et donc, comme je le disais, c'est une bibliothèque ouverte à tous les publics. Dans la continuité des enseignements, les élèves et étudiants qui utilisent la bibliothèque viennent pour se former, pour des recherches documentaires, mais aussi comme espace de ressources pour des travaux collectifs. Ils y sollicitent notre aide pour leurs recherches et également pour ces travaux. En coordination avec l'équipe pédagogique, quelques ouvrages sont disponibles en plus de 10 exemplaires pour qu'ils puissent être utilisés par les formateurs. D'ailleurs, les apprenants empruntent souvent nos ouvrages pendant quelques heures pour travailler directement sur le domaine et on en voit les bénéfices puisque cette année encore, 7 élèves de bac pro et de BTS ont décroché les secondes et troisièmes places, par niveau de diplôme évidemment, au concours régional de reconnaissance des végétaux. Ils participeront à la finale nationale en décembre prochain. La bibliothèque Dubreuil est aussi un pôle de documentation de la DEV, des espaces verts et de l'environnement, en coordination avec le réseau des bibliothèques vertes qui regroupe la bibliothèque Paris Nature, qui est au parc floral, la bibliothèque de la Maison du Jardinage, qui elle se trouve dans le parc de Bercy, la bibliothèque Dubreuil évidemment. Il y a aussi un centre de documentation au sein de la DEV qui édite un rendez-vous presse qui est diffusé pour le coup uniquement en interne. Et le centre de documentation du service des cimetières que Pierre Jouffion vient de nous présenter. Pour cela, la bibliothèque s'est dotée d'une classification évolutive mise au point en interne à partir de ses collections. Cette indexation propre est organisée à partir d'une liste d'autorités matières qui comporte des classes représentées par des lettres et complétées par des chiffres. On retrouve des classifications du même type à l'INHA, dans des bibliothèques universitaires américaines et la SNHF, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, que je ne vois pas. Ah, voilà. Il y a aussi une classification propre à la SNHF. L'intérêt d'avoir une propre classification, ça permet de la faire évoluer. Par exemple, on vient d'intégrer le terme agronomie pour tout ce qui concerne l'agriculture urbaine, la permaculture, l'agroécologie et l'aquaculture. Alors, à l'image de cette prise de notes 2.0, car les stylos ont disparu. Donc là, c'est une formation pour les amateurs, donc le samedi. Les types de recherches ont évolué. Nous devons donc aujourd'hui être à même d'accompagner ces usagers dans l'univers du web de données. Le site internet est un des outils de ce pôle documentaire. Je ne vais pas m'étendre sur le site internet car il est en cours de refonte. Vous avez donc cette page, donc la présentation actuelle, puisqu'il ne répond plus actuellement aux besoins des formations, de la communication et de la bibliothèque, mais c'est juste pour me permettre de passer au point suivant, qui est la diffusion. Le réseau des bibliothèques de la ville de Paris se compose de 56 bibliothèques de prêt, une réserve centrale des bibliothèques, 16 bibliothèques patrimoniales et spécialisées, dont 5 sont ouvertes au prêt. Appartenir au réseau des bibliothèques spécialisées, c'est avoir une visibilité importante, le catalogue en ligne dont nous parlait Pierre Jourdion tout à l'heure, justement, l'actualité, les informations, mais également un soutien juridique, administratif et informatique, ou encore de bénéficier des ressources, des formations et d'échanges des professionnels. La circulation des collections s'appuie, comme dans beaucoup de bibliothèques, sur différents outils qui sont d'une part les outils papier, la bibliographie, les conseils de lecture, mais également les outils numériques, les catalogues en ligne et les lettres d'information. En 2016, nous avons effectué 4300 prêts, la grande majorité étaient des livres, loin devant les DVD et les périodiques. Les événementiels sont l'occasion de présenter les collections et les travaux d'élèves lors de manifestations telles que les journées du patrimoine, la fête des jardins ou encore les journées portes ouvertes de l'école. J'en profite pour faire une parenthèse sur la difficulté que nous avons à conserver les documents que sont entre autres les maquettes comme celles que vous voyez en bas à droite, les grands panneaux réalisés par les élèves dans le cadre de leur présentation pour leurs examens. Peut-être sur lequel on reviendra tout à l'heure. L'amplitude d'ouverture au public est de 37 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours en dehors des vacances scolaires. Sans aller jusqu'aux 14 millions d'usagers potentiels à séduire dont on entend beaucoup parler actuellement, une ouverture au public le samedi est envisagée. Elle permettrait de toucher les 1000 apprenants des cours publics de l'école du Breuil, d'être dans la continuité pédagogique de l'ensemble de nos stagiaires et évidemment des actifs qui, eux, ne peuvent pas forcément venir en semaine. En 2005, un audit de Noël Ballet, conservateur responsable de la mission du patrimoine au service scientifique des bibliothèques, a identifié la bibliothèque du Breuil comme l'un des pôles de conservation et de diffusion du patrimoine livresque de la ville, dont elle détient l'une des collections les plus précieuses. Le fonds patrimonial comprend actuellement un peu plus de 4000 documents datant du XVIe au milieu du XIXe siècle. Ce sont essentiellement des ouvrages, je ne vais pas vous reprendre toutes les chiffres, vous les avez à l'écran, mais également des manuscrits, des périodiques, des herbiers dont le plus ancien date de 1790, des négatifs sur plaques de verre que vous voyez justement en dessous, le jardinage avec les sabots, et des plans et des médailles horticoles. Les premiers ouvrages de la bibliothèque ont été acquis dès la création de l'école en 1867 par Alphonse Dubreuil. Dans les années 1930, sous l'impulsion de Jean-Marie Dubernet, bibliophile averti, l'école fait l'acquisition de la bibliothèque de Louis Tillier, paysagiste versaillais. Ses quelques 2500 volumes comprennent des livres anciens et des collections de périodiques. D'autres legs enrichissent le fonds au cours des années suivantes, notamment celui de M. de Morlaine, conservateur des promenades de Paris. En 1970, les ouvrages de la bibliothèque du service central des parcs et jardins rejoignent à leur tour l'école du Breuil. Effectivement, il y a aussi eu une partie de versement aux archives de Paris. Malheureusement, les registres de cette bibliothèque et la liste des dons n'ont pu être retrouvés et le dernier inventaire papier de 1983 est également partiel. Donc aujourd'hui encore, on a des dons qui viennent compléter nos collections. Ce sont des dons d'amateurs, d'anciens enseignants ou de spécialistes. La numérisation des ouvrages les plus rares et les plus précieux est menée dans le cadre du pôle associé entre les bibliothèques de la ville de Paris et la Bibliothèque nationale de France. Mais au préalable, un travail est en cours pour déterminer les numérisations préexistantes dans le monde. La valorisation de ce fonds se traduit par l'accueil des chercheurs, une présentation ponctuelle au public lors d'événements, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, également aussi aux classes lorsqu'elles commencent l'année, leur rentrée scolaire, ou encore par des prêts à des institutions extérieures, comme ce fut le cas récemment pour l'exposition Jardin au Grand Palais, avec les deux planches que vous avez devant vous, qui représentent le parc des Buttes Chaumont, qui provient des promenades d'Alphonse. Et demain. Alors, à mon sens, il n'y a pas de bibliothèque sans échange. quels que soient des échanges d'informations, de documentation, de compétences. Il est donc naturel de continuer à développer les partenariats au-delà des actions existantes avec le CNHF, la Bibliothèque nationale, le Muséum d'histoire naturelle et d'autres. Par ailleurs, la bibliothèque conserve des dossiers sur l'école du Breuil et ses partenaires institutionnels. La constitution et l'enrichissement de ces documents sont multiples et inégales. La bibliothèque n'ayant jamais eu comme mission de les conserver. Il regroupe d'ailleurs la question qu'on évoquait tout à l'heure sur la façon dont on constitue les collections. Donc, la bibliothèque a également, comme je vous le disais, des archives sur les rapports de stage, les travaux d'élèves. Une réflexion est menée entre les différents partenaires concernés visant à assurer une gestion continue de la sauvegarde par l'école des réalisations des élèves au sens large, au-delà des délais légaux et à des fins pédagogiques et patrimoniales. À terme, la mise en place d'une gestion coordonnée de l'ensemble de ces archives au sein de l'école du Breuil est envisagée dans le cadre de l'établissement public que j'ai vu tout à l'heure, avec une gestion électronique des données, ou GED. L'enjeu de la bibliothèque de demain est probablement d'apparaître comme une alternative dans un contexte d'omniprésence de l'information. La bibliothèque doit être à même d'accompagner les usagers dans l'univers du web de données. À l'image des nouveaux aménagements dans les bibliothèques, comme celui de la SNHF, l'accent doit être mis sur l'appartenance de ces lieux à tous. Cela peut se traduire par une diversification des espaces, à la fois lieux de recherche, mais également des espaces plus conviviaux, ou encore l'exposition des collections par les vitrines. J'ai l'air de faire très... Mais c'est vrai que l'exemple de la SNHF a pour nous été intéressant de voir comment un réaménagement d'une bibliothèque spécialisée prend en compte l'évolution des usagers. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, participer à la création d'un troisième lieu à l'école du Breuil, comprenant tous ces aspects et vraiment répondant aux évolutions des demandes des usagers et du public au sens large, serait vraiment un défi passionnant. J'ai peut-être été rapide.
Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur le... Je voudrais revenir sur le travail de repérage que vous faites justement avant d'amorcer une politique de numérisation pour voir déjà l'existant que vous faites d'une manière très pragmatique. Quelle est votre méthode et quels sont un peu les angles morts auxquels vous êtes éventuellement confrontés?
Alors, la principale difficulté, c'est de... En fait, il faudrait constamment recommencer. Nous ne sommes que trois à la bibliothèque. Cela implique de faire une recherche humainement, de chercher dans le monde entier, sachant qu'avec les bases de données, il faut rentrer dans chaque base de données de chaque institution. C'est le cas, par exemple, des collections... Quand vous allez sur le catalogue en ligne des bibliothèques de la ville de Paris, il n'y a que par ce moyen-là que vous pouvez savoir si le livre a été numérisé. Il ne suffit pas de faire dans Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, de taper le titre, automatiquement on vous dit voilà, il est numérisé. Non, il faut rentrer dans chaque base de données, ce qui prend du temps, sachant que parallèlement, chaque institution numérise et... C'est pour ça que je disais il faudrait le refaire. C'est un circuit sans fin. Mais c'est à l'heure actuelle la seule méthode que nous avons. L'avantage étant qu'aujourd'hui, on peut, dès qu'on trouve le lien, l'intégrer immédiatement sur la base de données, ce qui permet, par miroir aux autres institutions, de savoir qu'on a trouvé ce lien. Et ça permet aussi d'éviter d'avoir des doublons, parce qu'on ne va pas... numériser si ça existe déjà.
Le plus gros risque, l'enfer des projets de numérisation, le doublon. Donc il y a aussi l'outil du catalogue collectif de France, oui. Qui est aussi une porte ouverte sur plusieurs collections sur une même interface qui peut aider. Mais c'est vrai qu'on voit que même ce que vous dites est très juste, même si on a des moyens en ligne d'un repérage, en fait le réseau il doit quand même être habité et animé, puisque justement pour avoir aussi une version actualisée de l'existant, ça passe aussi par des dialogues ou des rencontres à peu près régulières où en fin de compte les contacts opérationnels donnent un petit peu leur état des lieux de la numérisation. Est-ce que vous avez des questions sur l'école du Breuil, sur la margarine, je ne sais pas.
Je vais l'avoir. Ah Oui.
Il y avait déjà des actions de formation très importantes qui étaient organisées à l'intérieur du service des promenades à l'initiative de Jean-Pierre Barillet-Deschamps. Je ne sais pas où il organisait ça, c'était probablement du côté de la Muette. Est-ce que cet ensemble d'ouvrages dont il est question dans pas mal de revues et de bouquins, on le cite quand même, plus que dans les promenades de Paris, est-ce que vous en avez trace? Est-ce que ça a été regroupé?
Non, malheureusement, on n'en a pas de traces.
Ça a mené sa vie indépendamment.
Voilà, il y a encore, vous avez quand même l'école qui est au Jardin du Luxembourg, qui existe encore aujourd'hui et qui était quelque part, en fait, à l'origine, la création de l'école du Breuil était destinée à remplacer cette école qui a quand même perduré.
Bien sûr.
Et donc, eux ont peut-être encore des collections, mais de notre côté, nous n'avons aucune trace de cette constitution de bibliothèque.
Bon. Ben, tant pis.
Mais c'est vrai que c'est l'histoire des constitutions des collections. Je dirais qu'on s'y intéresse depuis quelques années, mais voilà, nos prédécesseurs n'ont pas toujours pris en compte cet aspect, malheureusement.
Vous parliez de difficultés de conservation, justement, des maquettes, etc. Vous pouvez détailler un petit peu ?
Alors, effectivement, oui, puisque nos élèves sont amenés à faire des présentations parce qu'on les entraîne beaucoup aux présentations orales et ça se développe dans pas mal d'examens aussi qu'ils sont amenés à passer. Et on a d'une part donc des difficultés physiques à garder ces documents, mais on a aussi des contraintes légales puisqu'on est centre d'examen et on doit pendant plusieurs années conserver ces documents sans les diffuser. Et l'échange que nous avons actuellement en interne, c'est de savoir comment anticiper au moment où ces documents sont déposés. Alors c'est au sens large, hein, je parlais de panneaux, mais ça peut être effectivement des maquettes ou des rapports ou autres, ou même les sujets d'examen. Et l'idée est effectivement après de pouvoir les conserver pour les diffuser, puisque comme on prépare aux examens, on nous demande à les consulter. Et il faut de la place, tout bêtement, oui. Alors on envisage aussi de numériser pour ne pas avoir à tout garder.
Oui, moi, c'est une prolongation de la question de Sophie Bertrand sur la numérisation des données. Je comprends qu'il y a des partenariats en France. On sait qu'il y a aussi beaucoup de numérisation très avancée à l'étranger et j'imagine que vous êtes confronté aussi à toute cette numérisation, c'est un travail, ça veut dire aussi de l'argent et des droits des histoires de copyright et d'accès privilégié ou pas. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce sujet? Parce que je comprends moi-même pas toujours ce qui se passe.
Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, parce qu'effectivement on voit à la fois à l'échelle nationale et internationale, et pour le coup, comme je le disais, c'est toujours l'intérêt d'être en réseau, que ce soit au sein de la ville de Paris, mais également justement avec les autres bibliothèques, d'échanger en permanence et de faire une veille générale, parce que si on reste de notre côté, on ne pourra pas être au courant de tout.
Il y a aussi un positionnement, on va dire, politique. Donc la politique culturelle d'un pays, elle est extrêmement importante. D'abord, dans la notion de transmission de son patrimoine. Donc c'est vrai que ça génère des subventions spécifiques à des moyens de conservation et diffusion à la numérisation. J'en parle parce que ça a été évidemment un levier extrêmement important pour la Bibliothèque nationale de France. Hein. Donc là, je vous parle de la numérisation de masse qui avait démarré sous l'ère Jeannenet avec l'affaire Google, donc je ne reviens pas là-dessus, mais ça, ce sont vraiment des leviers, des polémiques politiques qui ont des conséquences extrêmement pragmatiques sur les moyens qu'une institution peut avoir sur sa politique culturelle. Il y a évidemment le positionnement politique qui va aussi avoir un infléchissement sur le cadre juridique. Dans quelle mesure on ouvre nos métadonnées et nos données. Donc, par exemple, et donc ça, c'est aussi un dialogue que l'on a avec les autres bibliothèques numériques, puisque vous avez des bibliothèques qui sont sur des licences différentes. Nous, par exemple, sur Gallica, on est sous licence Etalab, donc toutes les métadonnées sont disponibles, mais pas forcément les documents en haute qualité. Donc ça, c'est vraiment une avancée collective que l'on doit avoir, c'est-à-dire la tension qui existe entre la protection du droit d'auteur, si évidemment on est plus sous domaine public, mais aussi la prise en compte enfin des coûts qu'ont généré en fait un support de conservation comme la numérisation. Donc on voit bien que cette question politique a un infléchissement sur une question juridique et économique. Et à l'échelle, on va dire, européenne, pourquoi je parle d'européenne ? Puisqu'on a un outil très concret qui s'appelle le portail Europeana, qui quand même fédère pas mal de bibliothèques européennes, régionales et nationales, selon la configuration des pays, puisque en Allemagne, on va être plus sous forme de lender, etc., ainsi que en Italie, donc bon, ça va être différent, où là, la politique européenne, si elle insuffle aussi des projets, alors ça peut être des projets de commémoration, comme on l'a vu sur 14-18, avec le programme Europeana 14-18, où là, on va sensibiliser à l'échelle de plusieurs pays sur un sujet commun, une intensification d'une politique de numérisation pour un portail commun. Donc on voit bien, et c'est pour ça que la notion de réseau, on la voit bien en fil rouge de cette matinée, elle est essentielle à plusieurs niveaux. Elle est essentielle au niveau du dialogue interprofessionnel. Pourquoi on choisit Unimark ou pas, par exemple, je reviens sur l'évocation d'Emmanuel. Qu'est-ce que je fais avec mon GED ou avec ma bibliothèque numérique? Qu'est-ce que je fais avec des cadres juridiques qui peuvent paraître contradictoires? Vous parliez aussi du cadre juridique, justement.
Oui, parce qu'on a aussi des documents. Il y a aussi tout ce qui est la question de documents administratifs. Voilà. C'est pas seulement,
Donc, on a la CNIL, on a des conversations sur la CNIL, hein, avec les documents historiques qui ont aussi les archives là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un dialogue au niveau interprofessionnel. Quel choix ou quel compromis on opère pour pouvoir à la fois résoudre quelques tensions qu'on peut connaître, et quelle identité aussi institutionnelle on donne par rapport à la diffusion de ces fonds et à la notion de transmission. On voit bien aussi que la politique de rénovation de la SNHF, elle a été liée aux usages. C'est-à-dire aujourd'hui, transmettre nos fonds, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux usages aujourd'hui ? Ce pourquoi le numérique, qui pourra peut-être être obsolète un jour, entre dedans. Donc, il y a évidemment la question très pragmatique des doublons pour l'argent public. Ça, c'est évident, mais c'est un travail un peu décisif. Hein. Mais il y a aussi la sensibilisation d'un secteur professionnel à des relais politiques. Voilà. Et si vraiment on scinde ces aspects-là, on pourra avoir toujours des vœux vertueux, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Pourquoi on a des cadres dans la politique de coopération avec la BNF, de conventionnement parfois un peu long et laborieux à mettre en place? Tout simplement parce qu'on acte auprès du ministère de la Culture ou du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qu'il y a une volonté qui est là, au-delà des personnes en présence. Voilà. On acte que certains projets, alors j'ai plus parlé de projets de rétroconversion de catalogue, de numérisation, qui sont du travail au long cours, que si on amorce, eh ben, il faut quand même qu'il y ait une politique publique qui suive à peu près, parce qu'une politique de rétroconversion, c'est long. Voilà. Donc voilà à peu près comment je répondrais, en fait.
Et si je peux juste ajouter une chose, ce qui est intéressant aussi, c'est d'échanger avec ceux qui font des recherches, entre autres. Non, mais c'est vrai, parce que c'est aussi les difficultés que vous nous faites remonter dans vos recherches qui nous permettent de vraiment voir, parce que nous, on met des outils à la disposition de nos usagers, mais je dirais quelque part, il n'y a que ceux qui vraiment s'y confrontent sur des demandes très très pointues qui là peuvent nous faire remonter des choses dont qu'on n'aurait pas perçu. Donc je pense que c'est aussi important d'avoir ces échanges-là et de les intégrer dans nos réflexions, quel que soit le système qu'on met au point.
C'est pour ça que c'est aussi important, alors ça peut être sous un comité scientifique, etc., d'avoir quand même des membres qui sont de la recherche très concrète pour orienter aussi des choix de numérisation qui sont à faire. Donc, vous m'avez fait une transition.